Bonjour chers auditeurs de Radio Conciel, nous allons aborder aujourd'hui dans notre émission avec Monsieur l'abbé Jacques Potier, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin, des questions qu'un chrétien peut se poser aujourd'hui, et nous allons nous concentrer sur le sacrement du baptême. Bonjour Monsieur l'abbé.
Bonjour Madame Lagier, merci de m'avoir invité, c'est toujours une joie de pouvoir dialoguer et essayer d'ensemble d'avancer dans la connaissance de foi.
Alors, vous êtes prêtre du diocèse de Chartres et vous êtes aussi chanoine à la cathédrale de Chartres et vous accueillez de nombreux pèlerins mais aussi des visiteurs qui vont profiter de votre présence pour s'entretenir avec un prêtre et c'est toujours important, je pense, de rappeler parfois aussi des vérités fondamentales. Les connaissances de notre religion, le christianisme. Vous êtes aussi auteur d'un livre, vous avez publié en 2019 un livre « Les chemins de l'amour », « Des chemins de l'amour »,
oui,
que l'on peut toujours trouver dans les bonnes librairies.
Oui, alors, merci.
Alors le baptême, aujourd'hui on a tendance à repousser de plus en plus le baptême des enfants, pas tout de suite, l'enfant doit pouvoir décider. Traditionnellement le baptême se fait à l'âge, enfin tout de suite après la naissance, ça serait idéal. Est-ce que cela se fait toujours?
Oui, le baptême des enfants a toujours été considéré dans l'Église comme une réalité non seulement encouragé, mais on pourrait dire nécessaire. Tout être qui, dans une chrétienté, dans une ambiance chrétienne, dans nos pays occidentaux et même ailleurs, eh bien, est invité à accueillir le salut du Christ. L'idée, c'est que, essentiellement, nous avons à reconnaître que Jésus a offert sa vie pour tous, et donc il convient que ce salut soit accueilli par tous, et le baptême est le signe de l'accueil du salut du Christ, d'une façon explicite. Alors, il y aura la question à se poser, les enfants qui n'auraient pas reçu le baptême, est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Le catéchisme de l'Église catholique dit, ils sont confiés à la miséricorde de Dieu. Mais la nécessité du baptême repose sur l'Écriture elle-même, hein, surtout, je pense, en Saint Jean, chapitre 3, il faut renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il faut renaître. Donc la renaissance spirituelle est une nécessité. Et alors ça évoque la question, la nécessité des sacrements d'une façon plus large. Pourquoi le Christ a voulu des sacrements? Si on dit l'importance des sacrements, du baptême, il faut au préalable se dire, bah oui, le Christ s'est en fait homme, ayant pris une nature humaine, eh bien il a voulu cette économie, entre guillemets, cette réalité de la vie sacramentelle qui passe par des sens, par des réalités matérielles. Oui.
Ce sont comme des canaux de grâce par lesquels on peut être relié à
oui,
Dieu.
Oui, on pourrait dire, c'est une bonne expression, sans trop la chosifier, parce que Dieu n'est pas lié à ces canaux, mais il a voulu passer par le canal de son humanité et par des réalités sensibles. Oui.
Le baptême tel qu'il est pratiqué pour les chrétiens, ce n'est pas un baptême de pénitence comme celui qui a été pratiqué par Jean-Baptiste, qui a préparé la venue de celui qui doit venir après lui.
Voilà. Alors, le baptême de Jean-Baptiste avait pour fonction de mettre dans des conditions de pénitence en vue d'accueillir le Christ. Mais quand Jésus est arrivé, il a repris ce rythme et en l'accomplissant, comme toutes les réalités des institutions de l'Ancien Testament, que ce soit le sabbat, le temple, le Christ ou la loi, le Christ prend et assume et dépasse. Et donc le baptême de Jean-Baptiste est dépassé et accompli et instauré, on pourrait dire, complètement achevé dans le Christ qui, en étant baptisé, signifie qu'il ouvre totalement à la connaissance du Père et à la filiation divine.
Dans la cathédrale de Chartres, de nombreuses images rappellent la nécessité du baptême. On a, si on rentre par le portail royal, le grand vitrail qui relate la vie du Christ et Tout en haut du vitrail, on voit une scène centrale encerclée où on voit le Christ justement au moment du baptême par Jean-Baptiste. Et c'est sans doute effectivement un rappel à tout chrétien de se faire baptiser. Mais c'est surtout parce qu'il y a le péché originel. Il faut peut-être revenir aussi au vitrail du bon samaritain. Nous voyons la création d'Adam et Ève et la chute. L'homme désobéit à Dieu. Il doit désormais être relié à Dieu et il y a ce péché qui l'a séparé de Dieu.
Oui. La création est bonne, la nature humaine créée par Dieu est bonne, mais comme vous avez employé le mot, la chute, il y a eu ce péché qui est une alliance qui est rompue en fait avec Dieu et le Christ est venu restaurer. Dans ce vitrail, c'est très net, on voit que l'homme qui est au bord du chemin est blessé, est repris par justement ce bon samaritain. Et au-dessus, dans la deuxième partie, on perçoit que c'est le Christ lui-même qui est le bon samaritain qui prend l'homme blessé, symbole du péché, qui marque la nature humaine. Et de fait, ça a été défini au Concile de Trente, mais le péché originel est dans la Bible. Évidemment, saint Jean parle du péché du monde, saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains, hein, donc la nécessité de la justification pour tous, parce que tout homme en Adam est pécheur. Tout homme en Adam est pécheur. Et je crois que on a peut-être du mal à le définir, à penser cette réalité du péché, mais il semble que la nature humaine est marquée pas uniquement l'ambiance du monde, hein, l'existence du mal qui nous encercle, oui, mais en naissant cet enfant si beau, si magnifique, créé par Dieu dans la nature est magnifique, et blessé, et pas corrompu complètement. Contrairement à la position de Luther, nous pensons que l'image de Dieu est ternie, mais elle reste. Hein. Donc il y a l'image de Dieu qui est toujours dans l'être humain, mais marquée par une fragilité dès la naissance.
Jésus est mort pour une multitude, mais il a versé son sang, mais il faut adhérer aussi à l'Église. Et le fait que le portelance va ouvrir la blessure du côté d'où sortira l'eau et le sang a été interprétée par les pères de l'Église comme annonçant la nécessité du baptême, l'eau, et de l'Eucharistie.
Exactement, oui, saint Jean Chrysostome, saint Augustin ont insisté sur cela en disant que même c'est la naissance de l'Église à la croix, hein, donc Marie étant la femme qui symbolise l'Église, qui accueille cette eau, ce sang, c'est-à-dire la rédemption, mais peut-être en marquant justement la nécessité de la foi. Parce que le baptême, là, tel qu'on vient de le dire, il y a une efficacité, un effet d'enlever le péché originel. Mais cela suppose un désir, soit des parents, soit si c'est un adulte, qu'il adhère, qu'il ait la foi. C'est le sacrement de la foi. Et c'est pour ça qu'au niveau de la pastorale, c'est quelquefois un petit peu difficile, parce que eh bien, ça peut être une tradition. On baptise sans se rendre compte que c'est l'entrée dans une communauté, que c'est l'entrée dans la vie qui doit être ratifiée par la personne qui reçoit le baptême.
Donc il faut que les parents, est-ce que vous voulez dire que les parents qui baptisent leurs enfants, il faut qu'ils adhèrent au moins au minimum au concept de l'Église?
Absolument. Et c'est pour cela qu'il y a le parrain et la marraine, parce que quelquefois les parents ne sont pas trop engagés dans la foi, mais ils ont un certain sentiment, ont la tradition les pousse, et normalement on devrait choisir le parrain et la marraine comme une aide plus certaine, quoi, que si les parents défaillent, qu'ils puissent être là pour aider l'enfant à assumer la vie de la foi. C'est pour ça qu'on dit le credo toujours, renonciation au mal, le credo doit être affirmé pour le baptême.
Nous sommes avec Monsieur l'abbé Potier dans notre émission qui sera consacrée aujourd'hui au sacrement du baptême. Et nous venons d'aborder la question du péché originel, le baptême nécessaire pour effacer ce qu'il est convenu d'appeler le péché originel. Et il est souhaitable toujours que ce soit l'enfant qui soit baptisé, que l'on n'attende pas à l'âge adulte. Car lors du rituel, normalement, autrefois, je ne sais pas si cela se fait encore, il y avait une partie qui exorcisait aussi, qui empêchait le diable, si on croit encore au diable, de prendre possession de l'âme. Il y a un rituel à respecter et puis il y a aussi les effets du baptême.
Alors, vous venez de souligner deux points importants, mais qui ne sont pas les uniques points à souligner. C'est-à-dire, efface le péché originel et nous protège du démon. Je dirais que c'est l'aspect négatif important dans le baptême, mais l'aspect positif, c'est que ça donne. Il y a un don de Dieu, la grâce sanctifiante, pour reprendre le terme lui-même du catéchisme de l'Église catholique, une grâce qui vient de la croix, du salut du Christ, qui nous sauve et qui nous fait enfants de Dieu. C'est le but, c'est d'être enfant de Dieu, c'est pas uniquement d'avoir le péché originel effacé. C'est d'entrer aussi dans la communauté chrétienne. Il y a les effets du baptême, je dirais, comportent au moins trois éléments. Bon, efface le péché originel, donne la grâce sanctifiante, mais intègre à la vie communautaire et fait entrer dans l'Église. On a insisté beaucoup là-dessus, et c'est vrai qu'au niveau du rituel, on demande, que demandez-vous pour cet enfant? Qu'il devienne enfant de Dieu, qu'il entre dans l'Église du Seigneur. Et je crois que ça, c'est important, mais il est vrai qu'il y a toujours un peu le rythme, d'ailleurs, de l'exorcisme, entre guillemets, de délivrance. Hein. Il y a un moment où on demande que tout esprit mauvais n'ait pas d'influence sur cet enfant, mais qu'au contraire, il entre dans une vie nouvelle et que c'est vraiment une renaissance, une recréation, d'une certaine façon, de l'intérieur. La Trinité, si vous parliez du rite qui doit advenir, c'est... au nom dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint, cet enfant, eh bien, est rejoint dans l'âme de cet enfant, puisqu'on peut employer le terme de l'âme, hein, ça touche le corps, mais dans la vie intérieure de cet enfant qui pleure, qui dorme, la grâce de Dieu est là.
Les parents sont là pour... Les parents sont là justement pour répondre à la place de l'enfant.
Voilà.
Parce qu'il va renouveler ses vœux du baptême lors de...
C'est cela. Et la profession de foi, si la profession de foi a un sens, je pense que c'est par les signes de l'aube et du cierge de renouveler les promesses du baptême pour que l'enfant puisse, même avant l'âge de 12 ans, hein, la première communion, redire et entrer lui-même dans ce qu'il a reçu, qu'il acquiesce, qu'il puisse formuler et intérieurement adhérer. Mais vous disiez que les parrains et marraines sont importants parce que non, ils sont signes de la communauté chrétienne. Normalement, on doit porter l'enfant dans l'éducation. Le baptême va avec l'éducation.
Et j'ai pu assister à un baptême à la cathédrale. Le prêtre accueille la famille à l'extérieur. Il y a déjà des prières qui sont dites à l'extérieur de l'église.
Oui. Alors, ou à l'entrée de l'église, mais pour montrer qu'il y a un processus d'évolution. Voilà, il y a une entrée, l'enfant va entrer, le bâtiment étant le symbole de la communauté. Et ça, on signifie ainsi l'entrée dans la communauté, dans l'église. Et ensuite, eh bien, on s'avance jusqu'au cœur où on va au baptistère, qui se trouve aussi dans certaines églises encore. Ça signifie justement l'entrée, hein, que c'est le début, hein, d'entrer dans l'église, et le baptistère est souvent au fond. Mais maintenant, pour des raisons pratiques aussi, et ça a un sens, on le fait, le baptême, près de l'autel. Car il y a aussi une signification assez belle, c'est que le baptême, c'est en vue de l'Eucharistie.
Alors, la grâce sanctifiante va permettre à cet enfant de grandir d'abord avec l'aide spirituelle. Et il serait souhaitable que l'enfant soit enseigné ensuite, catéchisé. Mais vous vouliez peut-être aborder aussi les effets du baptême, que l'enfant va naître avec, comme encadré par des anges, grâce à son entrée dans l'Église. Comment est-ce qu'on peut expliquer les effets du baptême?
Alors,
si vous vouliez peut-être revenir un peu sur...
Alors, si on revient, je les ai déjà nommés, mais on va peut-être expliciter.
Pour rendre vraiment compréhensible l'importance du baptême.
Alors, on peut dire, quels sont les effets du baptême, style catéchisme? Bon, je répondrai, les effets du baptême, c'est enlever le péché originel, donner la grâce sanctifiante, donc la grâce qui nous fait enfants de Dieu, recevoir en germe les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, puisqu'il y a une présence de Dieu, de la vie trinitaire dans l'âme de l'enfant. Et j'aime bien employer ce terme de germe de vie spirituelle qui s'épanouira jusque dans la vie éternelle. Car on peut dire que l'effet final du baptême, c'est l'entrée dans le royaume qui s'épanouira jusque dans la vie éternelle. Le baptême donne accès à la vie surnaturelle qui aura sa plénitude dans la vision divine. Donc c'est un acte quand même très fort qui intègre à la vie intime du Christ. Mais actuellement, on insiste sur cet aspect de la communauté qui doit porter. Parce que on sait que l'Église, elle a une visibilité, elle est une assemblée, elle est une fraternité, dans la paternité de Dieu, ça c'est sûr, mais seule. La vie chrétienne est difficile à s'achever. Elle est même impossible. Alors, il y a la famille, il y a le parrain, la marraine, il y a la communauté, il y a l'éducation dans la catéchèse, mais j'allais dire même avant l'éveil à la foi, car on sait l'importance des premiers gestes sur les genoux des mamans. Il y a un livre que je donnais souvent aux parents qui étaient sensibles à l'éveil à la foi, qui était intitulé « Sur les genoux des mamans ». Ça veut bien dire que tout petit, même avant d'aller au catéchisme, on peut, bien sûr, donner une ambiance chrétienne, apprendre les noms de Jésus et de Marie, avoir des images, prendre des signes, faire silence, du recueillement, voir des images. Tout ça, c'est très important. Entendre de la musique, des chants qui font que l'enfant a une appréhension positive, joyeuse du christianisme, une réalité positive, ce qui est complètement différent que, bon, on t'a baptisé, puis arrive 8 ans, attends, à quel moment déjà c'est le cathé, on va voir le curé, ah ben, est-ce que tu veux aller au cathé? Le gars, j'ai jamais entendu ce nom-là, cathé, oui, ben non, il préfère jouer au patin roulette. Alors, ben non, il veut pas, vous voyez, ça c'est pas une éducation chrétienne. Il faut qu'on donne le désir, le goût. Et si il voit les parents justement poser des gestes de prière, c'est magnifique quand on voit dans des familles le soir, même si c'est pas très long, mais régulièrement une courte prière, l'enfant voit une icône, une petite bougie, le petit enfant même, et s'il a quatre pattes, il souffle la bougie, tout ça, mais il voit des choses et ça l'imprègne, comme par osmose, et là c'est une véritable éducation chrétienne.
Donc il ne faut pas reposer le baptême de l'enfant en se disant on va le faire baptiser quand il aura l'âge de la majorité, il pourra décider parce qu'il pourrait lui arriver quelque chose. Sans le baptême, le catéchisme nous enseigne, on n'aura pas la vision de Dieu.
Oui, alors il y a ça, mais en fait, dire il va choisir. Est-ce qu'il a choisi ses parents? Est-ce qu'il va choisir son école? La liberté, c'est consentir aux choses positives. Si on aime quelqu'un, on lui propose ce qu'on a de meilleur. On va lui proposer l'éducation, tout un tas de choses, à travers même les repas, tout ce qu'il y a d'affection. C'est gratuit. On ne va pas lui demander « est-ce que tu veux aimer tes parents ?» On l'aime. Bon. Eh bien, c'est pareil. Il n'y aurait que Dieu, l'amour de Dieu, qui serait comme un accessoire, bon, il va choisir. Mais on lui propose, on n'impose pas, mais on lui propose, comme on lui propose l'amour humain, de l'affection des parents, on lui propose cet amour qui vient de Dieu. On sait très bien qu'il y a des enfants qui renient même l'éducation de leurs parents. Bon, on sait très bien qu'il peut y avoir des détournements, mais lui donner la chance d'accueillir le grand cadeau de l'amour de Dieu. Et je crois que quand c'est bien fait, en général, vous voyez, le cadeau de l'amour, eh bien, l'enfant l'accueille. Mais si c'est une proposition purement intellectuelle, est-ce que tu veux aller au cathé, comme si c'était un pinsum qu'il faut faire en plus des études, bon, l'enfant, il ne voit pas pourquoi. Vous voyez, je crois que là, il y a un rôle des parents très important dans une proposition positive du christianisme, de la religion chrétienne.
Cher monsieur l'abbé Potier, nous avons parlé du baptême et nous voudrions peut-être aborder, pour terminer notre émission, le baptême des adultes. On voit effectivement dans les vitraux de la cathédrale de Chartres souvent des païens qui, à l'âge adulte, vont recevoir la grâce, se faire baptiser. Nous savons par sainte Monique qu'elle prie instamment pour que son fils Augustin se fasse baptiser, mais on repoussait dans les premiers siècles souvent le baptême en se disant, comme ça, en tant que païen, on peut pécher. Et une fois qu'on a été baptisé, vaut mieux faire attention à chaque acte de la vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens se rendent compte qu'ils n'ont pas été baptisés au moment où ils veulent se marier, religieusement à l'église, et là, il faut préparer l'adulte à cette vie de chrétien. Comment est-ce que cela se passe?
Oui, alors, heureusement que la foi étant proposée à tous, eh bien, les adultes sont touchés, et soit l'occasion d'un mariage, mais autrement, ayant connaissance de l'Évangile, eh bien, ils accèdent à l'entrée dans la communauté chrétienne, ils accèdent à recevoir le sacrement du baptême. Cela prouve qu'on peut être baptisé, même sur son lit de mort, à 90 ans. Hein. Mais la nécessité d'un signe sensible qui signifie que la grâce de Dieu est accueillie. Et c'est beau de penser que des adultes le demandent. Alors, il y a un processus un peu différent que des enfants, bien sûr. Il faut que l'adulte montre qu'il y a une certaine conversion, une certaine foi, non seulement notionnelle, mais une certaine cohérence dans sa vie, pour accueillir cette grâce du baptême, qui est quand même la grâce de la sainteté. C'est la sainteté de Dieu qu'on reçoit. Donc, ça demande, de même que nous qui sommes baptisés, nous devons nous convertir et entrer dans la sainteté du Seigneur. Ça demande aussi pour les adultes, eh bien, cette cohérence de vie et cette perception de foi. D'où, si vous voulez, des étapes, l'entrée dans le catéchuménat, et puis un temps avec l'évêque, et notamment ça se fait pendant le baptême, pendant le carême, parce que c'est le temps de la conversion. Et à ce moment-là, il y a un cheminement qui se fait, une maturation de la foi, pour éviter d'avoir le baptême par une tradition, parce que voilà, dans ma famille on est baptisé, ou comme j'ai rencontré quelqu'un, je dis pas que c'était faux complètement, mais pourquoi il voulait être baptisé adulte? Bah, parce qu'il voulait être enterré à l'église. Bon, il y a mûrir quand même, c'est bien, mais c'est pas suffisant, évidemment.
Ah, il y a des gens athées, il y a des athées comme Voltaire qui, sur le lit de mort, voulaient se repentir, et puis leurs amis, qui étaient peut-être des faux amis, empêchaient un prêtre d'accéder au lit pour se confesser.
Oui, c'est dommage.
Bah, c'est ce qu'on raconte sur le pauvre Voltaire.
Ah oui. Il a eu le baptême de désir, alors, ouais, peut-être. Espérons. Il faut espérer pour tous.
Tant qu'un adulte qui voudrait se faire baptiser, il faut qu'il se fasse catéchiser pendant au moins 3 ans, c'est ça? C'est long.
Oui, alors, c'est là un petit problème, si vous voulez, c'est que pour certaines personnes, il y a une nécessité d'un cheminement plus long. Mais vous avez des gens qui sont convertis, qui assisteraient même à l'Eucharistie tous les dimanches, et à ce moment-là, pourquoi attendre?
Oui.
Moi, je suis frappé que quand même, dans les Actes des Apôtres, quand on voit l'eunuque là, qui est pour aller chez la reine de Candace, là, bon, c'est Philippe qui va le rejoindre sur son char. Et qu'est-ce que tu lis? Eh ben, je suis en train de lire un peu l'Ancien Testament. Ben, tu sais, ça a un rapport avec Jésus. Il lui annonce la mort et la résurrection du Christ. Ah, mais c'est formidable. Alors, qu'est-ce qui me manque? Je peux être baptisé? Mais oui, tout de suite, hop, et on le baptise. Vous voyez? Alors là, c'est quand même un peu rapide, hein. C'est peut-être quelques heures. Mais, en fait, Philippe avait vu qu'il était converti et qu'il voulait être sauvé. Alors, pourquoi pas? Faut tenir compte aussi de cela. Je crois qu'il faut pas qu'on soit systématique. Il faut 3 ans. Oui, même plus pour certains, parce que celui qui veut simplement voir, oui, je veux être baptisé par conformisme, et puis il approfondit, il faut peut-être plus de temps, il arrête, il reprend. Il faut cheminer au rythme de chacun. Mais il peut y avoir aussi des conversions. Ratisbonne, qui a fondé une communauté chrétienne, même une communauté religieuse, qui est devenue prêtre, qui était athée, avec la médaille miraculeuse qu'il avait prise avec lui, d'une façon un peu formelle, avec un ami, étant allé à Rome. Bon, il entre dans une église et puis il voit la Vierge qui ne lui parle pas, mais il a tout compris. Bah, 2-3 mois après, il était baptisé, il est devenu prêtre et un très grand chrétien. Donc il ne faut pas qu'on soit formaliste. Il faut quand même qu'on puisse, à chacun, donner une possibilité et de ne pas barrer en disant « Ah ben, vous voulez être baptisé, donc, ben, vous savez, il faudra 3 ans. Ben, » regardons la personne. Hein, pour cette personne-là, il faudra peut-être 3 ans, mais pour d'autres, il faudra peut-être 3 mois.
Bah, quelqu'un qui a fait un cheminement déjà pour apprendre les prières, pour lire la Bible, peut effectivement plus facilement.
Il y a des gens qui ont une connaissance de la foi. Surtout qu'il semble qu'il y ait des grâces particulières. André Frossard, par exemple, bon, voilà, il a reçu une grâce particulière. Il s'est converti, ce fameux journaliste académicien. Hein. Bah, il n'a pas mis beaucoup de temps non plus pour être baptisé. Il a tout reçu dans une illumination. Il m'a fallu qu'il mature un peu sa foi, mais ça a été assez rapide. Donc, oui, tenons compte du cheminement des personnes. Mais d'une façon générale, il faut quand même une catéchèse de base, d'approfondissement.
Et puis, vous pensez aussi que l'on peut sans doute prier aussi pour la conversion de ceux qui vivent dans le péché, dans des sectes, qui luttent contre l'Église.
Ça, c'est l'évangélisation, la mission. Il y a toujours un texte qui me plaisait beaucoup, que j'utilise, sans que ça soit l'unique texte, mais me paraît fondamental, Saint Matthieu 28, la finale de Matthieu, « Allez enseigner toutes les nations ». Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements. Oui, allez enseigner. Le baptême est pris entre deux invocations. Allez enseigner, baptisez-les, d'accord, et apprenez-leur à garder les commandements. Vous voyez, donc enseigner la foi, aussi la morale, on pourrait dire, l'apprenant à garder des commandements, l'éthique morale et spirituelle du christianisme. Et moi, je suis la mystique, je suis avec vous, la prière, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà, il y a les 4 points qui enseignement, baptême, les sacrements, la morale et la mystique, je suis avec vous, la prière. Tout est dit là.
Tout est dit. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez très bien résumé. Monsieur l'abbé Potier, je vous remercie beaucoup.
Merci, Madame Lagier, de m'avoir invité. Peut-être à une autre fois.
À une autre fois. À très bientôt. Merci. Merci à Simon à la technique. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une belle journée. À très bientôt.
Au revoir. Merci. Au revoir.